Hello, aujourd'hui je suis particulièrement contente de vous retrouver pour ce premier épisode de cette première saison parce que si vous ne l'avez pas suivi, Résilience Podcast a un petit peu changé et maintenant je vais fonctionner par saison, ce qui est beaucoup plus simple en termes de logistique pour moi et ce qui permet de faire des épisodes de meilleure qualité. Et aujourd'hui non seulement c'est le premier épisode de cette saison mais c'est aussi un nouveau format. Puisque j'ai décidé d'ajouter des épisodes qui parleront de la représentation des violences sexuelles et psychologiques dans la culture. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. Aujourd'hui, on va parler de Kirikou et la sorcière Karaba, qui est un film de Michel Oslo qui est sorti en 1998. Pourquoi je consacre un épisode entier sur ce film familial? Eh bien tout simplement parce que derrière l'histoire d'un conte africain, c'est en réalité l'histoire d'un viol collectif que la sorcière Karaba a subi. Et j'ai trouvé que c'était incroyable de réussir à faire un film pour enfants, un film familial qui parle d'un sujet aussi lourd sans qu'on s'en rende compte. En fait, tout au long du film, Michel Oslo, il va représenter des symptômes, des conséquences d'une personne qui vit de la violence sexuelle et on s'en rend même pas compte. Bon, au-delà de Kirikou, j'aime particulièrement Michel Oslo et je ne peux que vous recommander ses films. Que ce soit Prince et Princesse, Azur et Asmar, Les Contes de la Nuit, Ivan Tsarevitch et La Princesse Changeante, enfin vraiment, de manière générale, si vous ne connaissez pas Michel Oslo, allez regarder. C'est des films d'animation avec énormément de finesse, des musiques incroyables, enfin vraiment, voilà, c'est des petits bijoux. Et j'ai grandi pour ma part avec Kirikou, comme beaucoup de gens, et donc c'est forcément hyper touchant de se rendre compte des années après de toute la symbolique du film. Et je trouvais ça hyper intéressant. Un autre point intéressant par rapport à ce film, c'est qu'il est très engagé, ce qu'on ne dirait pas au premier abord. Mais en fait, Michel Oslo a été confronté à beaucoup de difficultés et a un peu dû se battre pour ne pas européaniser ce conte et au contraire respecter et retranscrire cette culture africaine. Puisque lui, il a grandi en Guinée, donc il est particulièrement familier avec cette culture de l'Afrique de l'Ouest. Donc plusieurs anecdotes, c'est par exemple les producteurs qui voulaient éclaircir les peaux noires, les financeurs qui voulaient absolument que Michel Oslo dessine des soutiens-gorge pour les femmes. Et donc il a même dû insister pour laisser un petit accent. Pareil, il voulait pas du tout d'un compositeur français, il voulait d'un compositeur sénégalais qui utiliserait uniquement des instruments traditionnels du continent. Et toute cette question de la nudité, puisque pour Michel Oslo c'était hyper important de montrer qu'il ne faut pas avoir peur ou honte d'avoir un corps. Donc c'est déjà un film très engagé sur la question de la retranscription de la culture africaine et la représentation du corps, mais il va même plus loin du coup avec la représentation de la violence sexuelle. Donc tout d'abord dans cet épisode, je vais recontextualiser un petit peu l'histoire de Kirikou et la sorcière Karaba, et ensuite je vais suivre dans un ordre chronologique les gros événements de ce film et analyser voilà, toutes les symboliques derrière, qui soient propres au conte, ou qui sont dénonciateurs du viol de manière générale. Donc tout d'abord, la présentation de Kirikou et de Karaba. Kirikou, c'est un enfant qui naît au début du film et qui est de très petite taille, donc il est très mis à part par les autres enfants, il n'est pas du tout pris au sérieux dans son village. Ce qui contraste énormément avec le fait qu'il est très mature pour son âge. Il pose énormément de questions qui dérangent beaucoup, et globalement il ne se contente pas du tout de ce qu'il voit, même s'il est très observateur, mais il veut toujours aller plus loin. Il veut toujours comprendre les choses, il veut toujours pousser la réflexion. Kirikou, il vit dans un village qui est très animé, il y a de la danse, il y a du chant. D'un point de vue visuel, il y a de la couleur, il y a de la vie. Et ça contraste énormément avec Karaba, qui est une femme mise à part du village et qui est décrite comme une sorcière qui mangerait les hommes et qui pille lors des femmes, qui est violente et qui a un petit peu pour but de détruire le village. Karaba vit dans une case, donc qui est en dehors du village, et où on retrouve énormément de symboliques de la mort, qui contrastent avec les symboliques visuelles du village, qui représentent plutôt la vie, puisqu'il est très lumineux, les chants, les danses, alors que chez Karaba, en fait, les couleurs, elles sont inexistantes. C'est assez frappant, mais il y a une route qui va du village à la case de Karaba, et au fur et à mesure de ce chemin, les couleurs, elles se perdent petit à petit, donc il y a une vraie transition. Et autour de la case de Karaba, il n'y a ni plantes, ni couleurs. On entend le vent souffler, il fait très sombre, c'est très épuré et vide, c'est très noir, c'est assez glacial finalement. Et la case de Caraba elle-même, elle est noire, elle est lugubre. Mais quand sa porte s'ouvre, on entrevoit l'intérieur qui est vraiment rouge sang, donc qui va plutôt exprimer la colère. Et dans le dossier presse de Kirikou, l'idée de ce rouge à l'intérieur de la case est décrite comme l'enfer qui brûle. Donc on a quand même cette dualité entre la vie et la mort, même si on a deux personnages qui sont globalement mis à part du village et désignés comme différents. Et un autre point par rapport à Caraba, c'est qu'elle s'entoure de fétiches. Donc c'est des hommes-objets qu'elle contrôle, qu'elle domine, qu'elle méprise. Globalement, c'est des esclaves. Et d'un point de vue visuel, ils sont inspirés de la statuaire africaine, donc un peu avec cette idée d'être figé. Et ils obéissent aveuglément aux ordres de Caraba. Et notamment, il y a un fétiche sur le toit de la case de Caraba qui monte la garde H24. Et ça, c'est un petit détail important sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Le premier point qui saute aux yeux dans ce film, c'est le fait que Kirikou passe son temps à questionner sur Caraba. Il demande sans cesse pourquoi elle est méchante, pourquoi on dit que c'est une sorcière, et visiblement, ça met un petit peu en difficulté les gens du village. Globalement, il questionne tout le monde, les adultes, les vieux, beaucoup sa mère aussi, et les femmes du village vont jusqu'à reprocher du coup à sa maman le fait que Kirikou y questionne autant. Et il n'a aucune réponse à ces questions, en tout cas aucune réponse fondée et satisfaisante, et il a tellement besoin de cette réponse qu'il va même jusqu'à demander à Caraba elle-même, et sa réaction est assez intéressante.
Caraba la sorcière, pourquoi es-tu méchante? Pourquoi es-tu méchante?
Mais tu es la voix du chapeau.
Je suis Kirikou, qui sait ce qu'il veut, et je veux savoir pourquoi tu es méchante.
Misérable crapaud! Je devrais te croquer sur le champ, mais tu es vraiment trop petit pour m'intéresser. J'attends que tu aies un peu grandi pour avoir plus de matière. Maintenant, disparaissez!
Ce qu'on peut noter globalement par rapport à ce questionnement, c'est que le village il va rester sur la forme. En gros, pour le village, la sorcière elle est méchante, elle veut détruire le village, et il n'y a pas une volonté de chercher à comprendre pourquoi elle se comporte comme ça. Et personnellement, ça m'a un peu évoqué un parallèle qu'on peut faire avec les personnes qui dénoncent ce qu'elles ont subi, parce qu'on va toujours les juger sur leur comportement à elles, sans considérer que ces comportements, finalement, peuvent être une preuve qui appuie ce qu'elles ont vécu. Alors, c'est peut-être pas très clair comme ça, mais pour prendre un exemple, dans le cas de la violence conjugale, on va toujours mettre en avant le fait que les victimes ne partent pas. Et on va jamais considérer que si elles ne partent pas, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est pas qu'elles ne vivent pas de la violence, mais au contraire, c'est un élément qui va mettre en avant le fait qu'il y a de la violence et qu'il y a de l'emprise. Et du coup, cette idée de rester sur la forme, de pas essayer de comprendre et d'enfermer dans des cases, bah finalement, on va se concentrer sur le fait que la personne qui dénonce, la personne qui dérange, bah en fait, elle est juste bizarre. C'est une menteuse, c'est une mauvaise personne, et on va pas chercher à comprendre plus loin. Et Kirikou, bah en fait, il va vraiment pas s'arrêter là. Il va continuer de questionner sa mère, qui va finir par lui avouer que son grand-père peut répondre à ses questions. Et donc, elle lui explique que son grand-père vit dans une montagne interdite, qui se situe derrière chez Caraba. Et elle va lui expliquer que la sorcière empêche les gens de passer, car il explique les choses telles qu'elles sont, alors que la sorcière a besoin que l'on croie ses sottises. Et pareil, j'ai trouvé que c'était un point hyper intéressant, parce qu'on peut noter déjà que la sorcière ne laisse pas les autres accéder au grand-père, qui visiblement connaît la vérité de pourquoi c'est une sorcière, de pourquoi elle est méchante. Et le deuxième point, c'est que visiblement, le grand-père n'a pas la même narration que la sorcière. Alors effectivement, pourquoi la sorcière empêche l'accès au grand-père s'il connaît cette vérité? Ça veut dire qu'il pourrait la dire et expliquer que non, Caraba n'est pas une sorcière méchante qui mange les hommes. Donc ça peut paraître un peu contradictoire. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant parce que on voit que ce grand-père connaît cette vérité, ce secret qu'elle, elle protège. Et ça fait, je trouve, référence à la difficulté de parler et d'affronter la vérité, que j'avais déjà abordée dans un des premiers épisodes, et l'idée de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres de cette violence. L'histoire de Caraba, ce viol collectif, il est tellement violent pour Caraba qu'elle ne veut pas que cette vérité éclate, quand bien même ça montrerait au village qu'elle n'est pas un tort, qu'elle n'est pas la méchante de l'histoire et qu'elle n'est pas la sorcière. Et ça rejoint ce deuxième point du grand-père qui n'a pas la même narration que la sorcière et du fait qu'elle a besoin que l'on croie ses sottises. En fait, finalement, c'est plus simple pour Karba de faire croire que c'est elle la mauvaise personne, qu'elle est une sorcière, alors que c'est faux, plutôt que d'admettre qu'elle a vécu quelque chose d'aussi violent et de raconter cette vérité qui est bien plus douloureuse. Et je trouve que ça fait aussi référence, du coup, de manière plus globale, à la peur des victimes de ne pas être crues. La peur d'être humiliée, d'avoir honte du regard des autres. Bah voilà, Karabal préfère se soumettre à un regard qui n'est pas vrai que de reconnaître qu'elle est une victime et que finalement, elle a beaucoup souffert. Et quand la mère de Kirikou lui explique comment accéder à cette montagne, parce que du coup, je vous laisse imaginer que maintenant que quelqu'un peut répondre à ces questions, il s'est bien mis en tête d'aller rencontrer son grand-père, même si c'est dangereux. Quand sa mère lui explique comment y aller, elle lui parle du fétiche en haut du toit de la case de Karaba. Et elle va préciser qu'il n'a pas besoin de lumière pour voir, et que non seulement il surveille continuellement, mais qu'il peut même voir les fourmis de la savane. Et en fait, ce fétiche, il fait référence à l'hypervigilance, qui est une des caractéristiques des traumatismes de manière générale, et particulièrement des traumatismes sexuels. Puisque l'hypervigilance, c'est l'idée qu'une personne qui a subi un choc, un traumatisme, est en permanence sur ses gardes, en permanence en train d'anticiper le pire, pour pouvoir se préparer au danger et ne plus être pris de court. Alors comment ça se manifeste ? Par exemple, dans mon cas, il y a des lieux où je vais être en hypervigilance et où je vais être sur le qui-vive. Et du coup, si j'entends un bruit, je vais sursauter. Si quelqu'un passe un peu trop près de moi, bah pareil, je vais sursauter. Je vais plus vraiment être dans le moment présent. Je vais être en train de guetter mon entourage, mon environnement, pour être sûr de ne pas croiser certaines personnes. Et quand sa mère précise que le fétiche n'a pas besoin de la lumière pour voir et pour surveiller, ça fait aussi référence au fait que cette hypervigilance, elle peut aussi se vivre la nuit dans le sommeil. Il n'est pas du tout rare que les victimes de violences ne dorment pas très bien, font des insomnies, font des cauchemars, se sentent pas en sécurité dans leur sommeil. Et l'autre point également intéressant, c'est l'idée que ce fétiche peut voir les fourmis à l'autre bout de la savane, ce qui illustre bien le niveau de vigilance, d'observation, pour vraiment anticiper le moindre animal qui s'approcherait de la case de Karaba finalement. Finalement, cette histoire de fétiche, elle va pas du tout empêcher Kirikou d'entreprendre son voyage, et il va réussir à arriver chez son grand-père.
Kirikou,
Kirikou,
Kirikou.
Bonjour Kirikou, que j'avais hâte de te voir.
Et donc Kirikou, il arrive dans une grande allée qui est bordée d'oiseaux qui se mettent à chanter. Et au bout de cette allée, il arrive en bas de marche. Et en haut de marche, il y a son grand-père qui est posé très calmement, qui reprend un petit peu la symbolique du sage. Voilà, il est en tailleur, il est habillé tout de blanc, il est très calme, il est très apaisé. Et donc ils vont commencer à parler. Et Kirikou va monter les marches, et à chaque marche, il va poser une question, et il va monter un peu plus dans les détails, il va pousser un petit peu plus son raisonnement. Et je trouvais ça hyper intéressant, cette symbolique de une question par marche, parce que ça illustre le fait que quand on apprend un secret, quand on apprend que quelqu'un a vécu de la violence, quand on sort du déni, il y a un peu cette idée de grimper l'échelle de l'horreur. C'est-à-dire que l'information est tellement violente à encaisser, que généralement, c'est au fur et à mesure qu'on prend conscience de l'ampleur de la violence, de l'ampleur de la gravité, et ça se fait vraiment progressivement.
Grand-père, pourquoi la sorcière dévore-t-elle les hommes ?
Elle ne les dévore pas.
Comment ?
C'est une idée des gens du village. Karaba ne les a pas contredits. Plus les gens ont peur, plus elle est puissante. Mais et n'a jamais eu envie de manger le cadavre d'un homme. Elle préfère les ignames avec une sauce bien pimentée, comme toi et moi.
Tu vas finir par me dire qu'elle est innocente et qu'elle aime tout le monde?
Non, elle n'aime pas les enfants. Elle méprise les femmes. Elle déteste les hommes. Et elle veut leur faire tout le mal possible.
Et là, le grand-père va lui expliquer qu'elle a subi un viol collectif. Alors évidemment, c'est un film familial, c'est un conte pour enfants, donc il va pas du tout utiliser ces mots, mais il va lui dire que les hommes lui ont enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée.
Pourquoi ?
Parce qu'elle a mal. Elle souffre jour et nuit, sans répit.
Pourquoi ?
Parce qu'on lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée.
Pourquoi n'enlève-t-elle pas l'épine empoisonnée qui lui fait mal jour et nuit ?
Retourne-toi. Essaye de toucher le bout de mon doigt.
Ah, c'est difficile. Ah.
En outre, l'épine est terriblement enfoncée. Il faudrait l'arracher avec les dents.
Pourquoi ne le demande-t-elle pas à une amie ?
Elle n'a pas d'amie.
Ah.
Mais si elle croyait que quelqu'un connaissait le secret de son épine et voulait l'enlever, elle le tuerait.
Pourquoi ?
Si on lui arrachait l'épine, elle souffrirait sur le moment, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
Et encore une fois, ça fait référence à la peur de parler, la peur de rendre réel le trauma vécu, la violence subie, et que parfois, beaucoup de victimes préfèrent rester dans le silence que d'affronter, parce que c'est trop douloureux, et parce que ça semble trop compliqué. Et donc encore une fois, Carabal préfère passer pour la méchante que de révéler son secret qui pourrait la confronter au regard et au jugement des gens du village, qui sont déjà pas trop clean avec elle, mais aussi parce qu'au-delà de ça, elle aurait peur que quelqu'un essaie de lui enlever l'épine et qu'elle souffre. Quand il évoque ce viol collectif, donc symbolisé par l'épine que les hommes lui auraient enfoncée dans le dos après l'avoir immobilisée, au niveau de la scénographie, on voit une scène avec des ombres, on voit la main des hommes qui lui enfonce l'épine, et les mains sont représentées avec de longs ongles, et c'est plutôt des mains animales que des mains humaines, et on entend un énorme cri. Donc ça, c'est sur un fond rouge, donc il y a une violence qui est quand même assez bien symbolisée, assez bien retranscrite avec cette idée que c'est hyper barbare. Une fois qu'il apprend ça, Kirikou, il est épuisé. Et je trouve que c'est une scène tellement touchante, parce que déjà, elle représente le choc, la fatigue psychique d'encaisser une telle information. Et Kirikou, qui depuis le début se bat pour connaître la vérité, qui se bat pour qu'on ne s'arrête pas à cette image de Carabal la sorcière, qui se bat pour être accepté par son village, là, il baisse les armes.
Grand-père, puis-je aller sur tes genoux ? Parfois, je suis un peu fatiguée d'être toujours seule pour me battre. Et je me sens un peu petit et j'ai un peu peur.
Et donc il va demander au sage s'il peut monter sur ses genoux et il va se blottir dans ses bras. Et je le trouve tellement humble, tellement touchant. Cette idée aussi de besoin de réconfort, de... Waouh, c'est lourd en fait ce qu'il vient d'apprendre. Et finalement, c'est pas un surhomme. Et je trouve que ça renforce aussi l'idée qu'on peut tous s'identifier dans Kirikou, parce qu'il est mis à part, parce qu'il est petit, parce qu'il a de la détermination, mais aussi parce qu'il a des faiblesses et il est vulnérable.
Grand-père ?
Oui, mon enfant.
Peux-tu me donner un gris-gris contre la sorcière ?
Non. Ta force est l'absence de gris-gris. La sorcière connaît le monde des gris-gris et se joue d'autant mieux des hommes qui se croit protégée et ne se méfie plus. Par contre, elle ne sait que faire devant l'innocence toute nue et une intelligence toujours en éveil et libre. Kiriko, je suis avec toi.
Adieu, grand-père.
Au revoir, mon fils.
Ce que je trouve hyper intéressant dans ses propos, c'est l'idée que Caraba est capable de jouer et de manipuler les hommes. Pour certaines victimes, c'est très rassurant d'avoir l'impression qu'elles ont contrôle et qu'elles contrôlent les autres, et que puisqu'elles les contrôlent, bah finalement, elles vont pas se faire avoir, et elles vont pas revivre de la violence. Et là, c'est le cas de Caraba. Caraba, elle joue avec les hommes, elle les méprise, elle les transforme en fétiches, parce que c'est sa manière à elle de se protéger d'eux et d'avoir le contrôle. Et donc cette histoire de gris-gris, bah, ça rejoint cette idée. Les hommes qui se pensent protégés de Caraba, bah, en fait, elle peut d'autant mieux les contrôler parce que ça relève d'une peur. Par contre, un garçon comme Kirikou, qui est honnête, qui est innocent, qui est pur, bah, en fait, elle perd ses moyens. Et elle sait pas comment faire parce qu'en fait, elle est vulnérable. Mais je trouvais qu'humainement, c'était hyper intéressant que ce point-là soit souligné avec bah, voilà, la symbolique du gris-gris et que ce soit posé très calmement. Et finalement, Kirikou, enrichi de tout ce qu'il a appris, va rentrer libérer Caraba. En gros, pour la faire courte, il va piéger Caraba et il va l'enterrer des bijoux qui lui appartiennent dans la forêt pour la sortir de sa case et du coup qu'elle soit vulnérable. Et donc on arrive à la quatrième partie qui est la libération de Caraba. Caraba, elle arrive au pied de cet arbre et elle creuse pour récupérer ses bijoux. D'un point de vue scénographique, on a des musiques un peu policiers, thriller, donc qui rendent la scène très grave. Et elle va creuser, un peu comme un animal. Elle est très 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 en colère. Et Kirikou, il est caché dans l'arbre, donc il est sur une branche juste au-dessus de Caraba. Donc elle est à genoux, son dos vers le ciel, Kirikou est au-dessus d'elle et peut voir l'épine, ce qui n'arrive absolument jamais. Kirikou saute sur son dos, lui arrache l'épine d'un coup sec et elle hurle. Elle hurle, tous les oiseaux de la forêt s'envolent, tout le village l'entend. C'est une scène hyper brutale. Enfin voilà, tout s'arrête en fait. Il y a un arrêt. Et donc elle est à genoux au sol, elle est un peu effondrée. Et autour d'elle, la nature de la forêt va commencer à renaître doucement. Donc, il y a une petite musique douce, les fleurs éclosent, la couleur revient, il y a la beauté qui se manifeste. Toujours avec la finesse et la subtilité de Michel Oslo. Et donc, finalement, c'est un peu la sortie de la mort. Caraba reprend son souffle, elle se redresse, elle respire, elle s'étire, et elle dit « je ne souffre plus ». Elle commence à s'émerveiller de la vie autour d'elle, ses traits sont adoucis, sa voix elle est posée, enfin on sent qu'il y a un vrai relâchement, qu'elle n'est plus dans la violence, qu'elle est, voilà, elle est apaisée. Et elle va dire cette phrase que je trouve incroyable aussi, c'est « je n'ai plus mal, comme c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance. Je suis libre, la sorcière avec ses pouvoirs a disparu. Tant pis, tant mieux, je suis de nouveau moi. » Et cette question de qu'elle souligne que c'est étrange de ne plus ressentir aucune souffrance, ça peut paraître fou, mais je crois que c'est tellement ça quand on sort un peu du trauma. Ça nous a tellement habité, ça a tellement pris toute la place que quand ça part, en fait, ça a fait un peu bizarre. Et pour ma part, il y a eu une petite période où je me sentais un peu vide. Et je savais plus trop comment vivre sans, en fait. Je savais plus trop comment vivre sans faire de crise d'angoisse, sans être dans le contrôle. Et c'est un peu effrayant, en réalité. Et effectivement, elle le souligne, elle dit « la sorcière avec ses pouvoirs a disparu, tant pis, tant mieux. » Et très vite, elle passe de ce truc-là de « j'ai plus mes pouvoirs, ah, mais en fait c'est bien, je suis de nouveau moi. » Et pareil, je trouve que ça évoque le fait que quand on est dans un stress post-traumatique, on n'est plus vraiment soi-même finalement. Donc elle sort de cette identité de sorcière, de cette identité de victime aussi, et c'est une véritable résilience, finalement, puisque la douleur laisse place à du beau, à une renaissance, à un changement, et on sent qu'il y a une nouvelle énergie et qu'elle entreprend une nouvelle étape. Donc elle remercie Kirikou, et lui, lui demande de l'épouser. Voilà. C'est un petit enfant qui est né il y a une demi-heure, mais il veut l'épouser, et elle, elle veut pas. Et elle lui répond, je ne serai la servante de personne. Encore une fois, très intéressant cette idée de... Bah voilà, elle a quand même encore un peu peur, encore un peu la crainte d'appartenir, d'être détruite par un homme. Et Kirikou va tout simplement lui répondre, si tu étais ma femme, tu ne serais jamais ma servante. Donc Karaba, elle infantilise un petit peu Kirikou, qui se positionne plutôt comme un homme, et il va lui demander un baiser. Scène intéressante, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez du début de ce podcast, mais quand Kirikou lui avait demandé directement à Karaba pourquoi elle était méchante, elle l'avait traité de misérable crapaud. Ce qui, moi, m'a fait penser au crapaud, la représentation du crapaud dans les contes, qui est souvent l'idée du prince charmant enfermé dans ce rôle de crapaud, et de la princesse qui ne s'arrêterait pas aux apparences, qui l'embrasserait et qui le délivrerait. Et là, c'est un peu pareil, il lui demande un baiser, elle finit par accepter, et quand elle l'embrasse, il grandit et devient un homme instantanément. Donc, finalement, il y a une petite référence au crapaud. Kirikou devient un homme, on entend des chants d'hommes, son corps évolue, il a une nouvelle voix, il grandit, et il lui dit, tu vois, tu n'as pas perdu tous tes pouvoirs, et je trouve encore une fois que c'est une jolie phrase de lui renvoyer l'idée que, ok, c'est plus une sorcière, mais qu'en tant que femme, elle est quand même puissante, et elle peut quand même avoir une forme de pouvoir, d'impact sur les autres. Ils vont rentrer au village, ils vont se marier, les hommes transformés en fétiches sont libérés, le grand-père revient au village, bref, tout finit bien. Au-delà de toutes ces petites symboliques que j'ai essayé de soulever, que j'ai essayé de décrypter avec mon analyse personnelle, j'avais envie de finir cet épisode sur une cinquième partie qui fait référence aux symboliques des contes et des mythes qu'on peut retrouver de manière un peu plus globale dans ce conte. Bon, déjà, il y a le crapaud dont je vous ai parlé. Et un deuxième point qui m'a interpellée, c'est les cheveux de Karaba qui, personnellement, m'ont fait penser au serpent de la Méduse. La Méduse, dans la mythologie, c'est une belle jeune fille dont Poséidon s'éprend. Donc il va la violer dans un temple qui est dédié à Athéna, et pour la punir de sa beauté, Athéna va la transformer, et comme ses cheveux sont réputés pour leur beauté, elle va les transformer en serpent, et elle va donner à la Méduse un regard qui va pétrifier tous ceux qui la croisent. Bon, je sais pas si c'est une vraie référence, les cheveux de Karaba, je trouvais ça intéressant, déjà l'idée qu'un dieu qui s'éprend d'une femme la viole, et que pour la punir de son viol, une autre femme va la transformer plus ou moins en sorcière. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur cette idée de la méduse, mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Et enfin, le dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est l'idée de la sorcière. La notion de sorcière, elle est vraiment intrinsèquement liée au patriarcat, parce qu'on ne va pas parler de fée ou de sorcière au masculin, on va parler d'un sorcier, qui n'est pas forcément connoté négativement. Il y a plus cette idée de magie, de potion. Alors que la notion de sorcière, elle évoque plutôt une femme isolée et en rupture avec la société, qui fait peur, qui, dans l'univers du conte, est généralement laide, qui possède des dons surnaturels qu'elle utilise pour faire le mal, donc qui serait en opposition à la fée. On retrouve un petit peu cette dichotomie bien-mal. Et également, généralement, la sorcière non seulement vit en rupture avec la société, mais célibataire. Voilà. Et d'un point de vue historique, la notion de sorcière, ça fait forcément écho aux chasses aux sorcières qui ont eu lieu en Europe et aussi aux États-Unis pendant le XVIe et le XVIIe siècle, qui étaient aussi très liées à la religion. Mais c'est cette idée de rechercher un bouc émissaire pour les maux de la société. Et effectivement, Karaba, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a des problèmes au village, c'est forcément Karaba. Et finalement, on peut même aller jusqu'à souligner que Karaba a vécu une forme de chasse aux sorcières, puisque tous les hommes du village, un par un, tentent de la tuer. Aujourd'hui, la notion de sorcière, elle a un peu évolué, elle a un peu changé, parce qu'il y a une communauté de femmes qui revendiquent ce terme et qui se l'approprient. mais je trouve que ça reste un mot qui n'est pas anodin. Et donc c'était intéressant de mettre en lien cette notion et ce qu'elle veut dire. Voilà, j'espère que cet épisode n'a pas été trop brouillon, qui vous aura donné envie de regarder des films de Michel Oslo, je ne le dirai jamais assez, mais surtout qui vous aura plu, puisque c'est le premier épisode de ce volet un peu plus culturel. N'hésitez pas à me faire un retour sur l'Instagram, resilience.podcast, et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode.